Pour pouvoir comprendre le fonctionnement des machines thermiques, il est fondamental d'avoir un minimum de connaissances sur les propriétés des fluides qui les traversent. Rappelons qu'un corps pur peut se présenter sous l'une ou plusieurs des trois phases solide, liquide ou gazeuse. Dans le plan pression-température, où la pression est en ordonnée et la température en abscisse, les trois phases correspondent à trois domaines séparés par trois courbes de saturation se rejoignant au point triple T. Il s'agit des courbes de sublimation, de vaporisation et de fusion. Lorsqu'on chauffe un solide à pression constante bien choisi, il se transforme en liquide et on parle de fusion. C'est ainsi que la glace chauffée se transforme en eau liquide. Si l'on continue à apporter de la chaleur, le liquide se transforme en vapeur et on parle de vaporisation. C'est ainsi que si l'on fait bouillir de l'eau dans une casserole, elle s'évapore et la quantité d'eau qui reste dans la casserole diminue progressivement. Le phénomène de vaporisation et son contraire, la condensation, joue un rôle fondamental dans les cycles des centrales à vapeur et des installations de réfrigération. Pendant ces transformations, on dit que le fluide est à l'équilibre liquide-vapeur. La température à laquelle l'équilibre liquide-vapeur prend place est une fonction croissante de la pression exercée sur le corps considéré. On appelle titre X d'un mélange diphasique d'un corps pur le rapport de la masse de vapeur à la masse totale vapeur plus liquide. La température d'équilibre liquide-vapeur reste constante tant que la vaporisation n'est pas complète, c'est-à-dire tant que le titre est compris entre 0 et 1. On appelle loi de pression saturante la relation qui donne la pression de saturation d'un fluide en fonction de sa température. Il existe une pression et une température limite au-delà desquelles la zone d'équilibre liquide-vapeur disparaît. On parle de pression et de température critique. Dans le plan PT, le point critique représente l'état où la phase de vapeur pure a les mêmes propriétés que la phase de liquide pur. À des températures et pressions plus élevées, appelées supercritiques, il n'est pas possible d'observer une séparation entre les phases liquides et gazeuses. La frontière qui sépare les phases liquides et vapeurs disparaît au point critique. Cette figure présente la loi de pression saturante de l'eau, PVS de T, en dessous de 100 degrés Celsius, température de saturation de l'eau à une atmosphère, c'est-à-dire environ un bar. Elle montre que la pression de saturation de l'eau à température ambiante est très basse. Pour 20 degrés Celsius, elle est de l'ordre de 0,025 bar. Le condenseur d'une centrale à vapeur fonctionne donc à une pression très faible, largement inférieure à l'atmosphérique. Cette figure est un agrandissement de la loi de pression saturante du fluide frigorigène R134A entre moins 18 degrés Celsius et plus 50 degrés Celsius. Elle montre que, si l'on utilise ce fluide comme réfrigérant, la pression d'évaporation doit être inférieure à 2,1 bar environ, pour que l'évaporation prenne place à une température T-évap inférieure à moins 8 degrés Celsius et que l'enceinte froide puisse céder de la chaleur au fluide. Au condenseur, la pression doit être supérieure à 8,8 bar pour que la température de condensation T-conde soit supérieure à 35 degrés Celsius et que le cycle puisse être refroidi par échange avec l'air extérieur. La comparaison des pressions de condensation de l'eau et du R134A, par exemple à la température de 20 degrés Celsius, montre que les pressions de saturation varient beaucoup selon le fluide thermodynamique choisi. Pour une application donnée, la loi de pression saturante est l'un des critères de sélection du fluide de travail. Cette courbe donne les lois de pression saturante de divers fluides. Nous avons introduit précédemment les fonctions d'état, grandeur, dont la valeur ne dépend que de l'état du système et non pas de son histoire. Un fluide peut être présent sous une ou plusieurs phases. S'il est monophasique et que l'on considère une petite particule de fluide, son état peut être défini par deux grandeurs, comme sa pression, sa température, son volume massique V, ou encore son énergie interne massique U, ou son enthalpie massique H. Ce sont les variables que nous utiliserons le plus souvent avec les unités que nous emploierons. Attention à ce que les pressions seront généralement exprimées en bar et non en pascal, qui est l'unité du système international, et les températures par défaut en Kelvin et en degrés Celsius sinon. À l'équilibre liquide-vapeur, lorsque le fluide est diphasique, la pression et la température ne sont plus indépendantes. L'état de la petite particule de fluide peut alors être défini par une grandeur comme sa pression ou sa température, ainsi que soit son titre en vapeur X, introduit précédemment, soit son volume massique V, ou bien son énergie interne massique U, ou son enthalpie massique H. Voici maintenant quelques exemples d'utilisation pratique des changements de phase. Lorsqu'on ajoute des glaçons à une boisson tiède, elle leur fournit de la chaleur qui les fait fondre, ce qui la rafraîchit. Comme la chaleur latente de fusion de la glace est bien supérieure à la capacité thermique massique de la boisson, on obtient l'effet de refroidissement recherché sans apporter trop d'eau de dilution. Le gaz naturel est composé principalement de méthane. Pour le transporter sur de longues distances par voie maritime, on le liquéfie à une température de moins 160 degrés Celsius environ, réduisant d'un facteur 600 son volume massique par rapport au gaz. Il est ainsi possible de le maintenir à la pression atmosphérique dans les cuves du méthanier. Bien que ces cuves soient très bien isolées thermiquement, on ne peut éviter quelques échanges de chaleur avec le milieu environnant qui ont pour effet de vaporiser une petite quantité de gaz, laquelle est utilisée pour la propulsion du navire. Le gaz butane ou propane, distribué pour les usages culinaires, est confiné à l'état liquide à température ambiante dans des bouteilles métalliques épaisses, ceci afin de résister à la pression de quelques dizaines de bars qui s'établit à l'intérieur et qui varie en fonction de la température extérieure. Toutes les cuissons réalisées à l'eau bouillante prennent place à 100 degrés Celsius si la pression est égale à 1 atmosphère, et ceci quelle que soit la puissance thermique fournie à la cuisson. C'est ainsi que l'on peut définir avec précision le temps de cuisson pour une recette culinaire, par exemple pour un œuf à la coque. Le principe de la cocotte minute est de s'affranchir de cette limite de 100 degrés Celsius en effectuant la cuisson dans une enceinte à une pression supérieure à 1 atmosphère. On peut ainsi atteindre 110 ou 120 degrés Celsius, ce qui permet de cuire plus rapidement les aliments.